Alors, Pierre Marie-Ménier, SNCF Réseau. Donc, moi, j'avais une question auxquelles vous avez répondu un peu sur la fin, mais justement, dans ces écarts entre les territoires, ceux qui produisent, et cette redistribution qui pourrait paraître un peu disproportionnée, enfin, c'est ce que je comprends, comment on prend en compte, justement, qu'il y a des territoires qui se spécialisent dans la production et des territoires qui se spécialisent dans le logement? On dit qu'il y a des communes dans lesquelles on dort et c'est pas forcément là où on travaille. Est-ce qu'il n'y a pas une logique, quand même, quand on travaille à Lyon, mais qu'on habite dans une commune à laquelle on demande quand même certains services, mais que pour autant on produit dans un autre territoire, qu'il y ait quand même cette redistribution, et comment elle est prise en compte? Et elle peut être prise en compte de façon différente que le PIB, parce qu'il y a des gens qui travaillent justement à ces formes de redistribution-là.
Oui. Attends, on va grouper quelques questions, si vous voulez. On va grouper au moins 3-4 questions.
Je ne sais pas, j'ai envie. C'est une deuxième question. Hein. Par rapport donc, au mécanisme redistributif, pardon, Ludovic Valadier, Caisse des dépôts. J'avais une question à vous poser par rapport aux dernières politiques publiques qui me semblaient pas forcément totalement redistributrices, notamment celles qui concernent les investissements dans la R&D, l'innovation, le cycle et en fait les programmes d'investissement d'avenir qui, de mon point de vue, n'ont pas forcément fait de mécanismes de redistribution, voire plutôt des mécanismes de polarisation. Est-ce que ces données ont été analysées ou pas?
D'accord. On en prend un troisième et puis.
Olivier Marzel, c'est le maritime. C'est plus un complément à la première question sur ces logiques de redistribution. Quand vous évoquez que, par exemple, 25% des Parisiens partent à la retraite ailleurs, mais est-ce que ce sont vraiment des Parisiens? Est-ce que vous avez calculé également combien de personnes partent de leur territoire à 20 ans pour aller travailler dans des lieux où il y a effectivement du travail et reviennent effectivement en retraite, là aussi des balances de redistribution un peu logiques.
Ouais, bon, j'ai répondu dessus là, je pense pas à la fin. Oui, bien sûr, ça change rien, hein. Ça change rien. Mais ça j'ai regardé plusieurs fois. Il y a un vieux truc par exemple où à une époque, quand le préfet Irignac s'est fait assassiner, il y a eu une montée d'huile à l'intérieur sur on a ras-le-bol des Corses. Un peu plus, etc. Et moi, on m'avait demandé de faire le bilan des relations financières publiques entre la Corse et le continent. Et j'avais fait le job, et j'avais publié un article dans une revue pour expliquer que les mécanismes de redistribution dont bénéficiait la Corse, des mécanismes qui, effectivement, notamment avec les retraites, étaient des mécanismes qui étaient absolument normaux, dans un modèle français dans lequel on retrouvait, en fonction du niveau de développement, un niveau de redistribution, que le Languedoc-Roussillon était exactement comme la Corse et tout, et notamment que le fait que beaucoup de Corses touchent les retraites en Corse, c'est vraiment, ils avaient été bossés à Marseille ou en Île-de-France, et j'avais comptabilisé, donc c'est normal, mais il n'empêche que ça fait bien un transfert territorial, même si effectivement, les Paris, il n'y a pas de sexe de pain parisien. Très peu. Mais ça, j'ai mis dans un bouquin, hein, ce que vous dites, je l'ai écrit, j'ai calculé, parce que l'INSEE peut vous le donner. Quelle était la part des... Vous avez des Rennais. Vous avez des... Les Rennais, ça existe, un Rennais. Ils sont originaires du coup. Parisiens n'existent pas. Enfin, oui, ils sont venus. Dans le cas de Lyon, c'est très clair. Dans le cas de la métropole lyonnaise, vous avez un grand nombre de gens qui vont bosser à Lyon, mais qui, en fait, sont venus, d'ailleurs, beaucoup de Saône-et-Loire. On l'a regardé, ça, justement. Et ils retournent en Saône-et-Loire. Mais si vous voulez, excusez-moi, ça veut dire que la métropole de Lyon a offert la possibilité à des gens de Saône-et-Loire de pouvoir travailler pas trop loin de chez eux et ensuite de retourner chez eux avec leur retraite. Ça n'est pas... Il n'y a pas de confusion conceptuelle autour de ces questions-là. C'est des circulations monétaires qu'on met à plat. Sur le redistribution, investissement d'avenir, bah, les mécanismes... Non, ça n'a pas été étudié. Les études sur les redistributions, il n'y en a pratiquement pas. C'est hallucinant. Moi, je vais prendre ma retraite bientôt, donc les gens vont faire ce qu'ils voudront, mais c'est pas possible. Mais attention, la redistribution, c'est jamais une dépense, n'est jamais redistributive en soi. C'est le rapport entre la contribution pour un agent donné, c'est sa contribution et le bénéfice global. Et vous pouvez pas saucissonner, dire les agents donnés sont redistributifs parce que seraient rapportés à la contribution globale des territoires concernés par les investissements d'avenir, et de voir le bénéfice global qu'ils tirent, dont les investissements d'avenir. La redistribution, c'est un mec, ce que les gens ont tendance à oublier tout le temps aussi, c'est un moteur à un deux cylindres, c'est prélèvement et dépense. Et c'est le solde entre prélèvement et dépense qui s'appelle la redistribution. Après, vous pouvez dire que une dépense ou un prélèvement est progressif ou pas, ou proportionnel, ou mais vous pouvez très bien avoir un système. Moi, j'avais montré ça, j'ai fait un rapport sur le Mexique pour le CDE, j'avais fait un peu jaser parce que j'avais montré que les dépenses publiques étaient territorialement régressives, les prélèvements du gouvernement fédéral mexicain, par les parts du budget fédéral, les prélèvements sont territorialement régressifs, c'est-à-dire en clair que les régions les plus riches payent en contribution un pourcentage moins élevé que les régions pauvres, et les régions riches touchent plus par habitant que les régions pauvres. Donc on avait deux mécanismes profondément régressifs. Le résultat des courses en redistribution, énorme transfert. Énorme transfert. Je n'ai pas le temps de vous développer. J'ai eu la même chose à la Commission européenne, avec toutes sortes d'économistes à la direction des politiques régionales, et j'avais devant moi des économistes allemands, etc., de nationalité, et il a été impossible de la faire comprendre ça. C'était un élève de quatrième, là on n'a pas le temps parce qu'il est midi 25, mais faites-moi revenir avec un tableau et je vous montre qu'on peut parfaitement avoir des systèmes totalement régressifs dans les prélèvements, c'est-à-dire que les pauvres payent plus que les riches. Vous allez mal dormir après. Vous avez les riches qui gagnent 100, vous avez des pauvres qui gagnent 10. Vous prenez 10% aux pauvres, les 1. Vous prenez 9% aux riches. Il était à 100. Hein. Il était à 100. Donc 9%, il va donner 9. Donc le pauvre a donné 1, le riche a donné 9. Mais le 7 est régressif, parce que le 1 pèse plus lourd dans le revenu des pauvres que le 9 dans le revenu des riches. Vous faites la même chose du côté des dépenses. C'est-à-dire que vous avez 9 et 1, ça fait 10, c'est le budget. Ce budget, vous allez le partager entre les deux. Vous donnez 6 aux riches, 4 aux pauvres. Totalement régressif, scandaleux. Simplement, au final, le pauvre, il a payé 1, il a eu 4 de dépenses. Le riche, il a payé 9, il a eu 6 de dépenses. Le riche a perdu, le pauvre a gagné. Il y a eu une redistribution. C'est d'accord, d'un élève de 4e de comprendre. Hein. Bon, ça, je n'ai pas pu le faire comprendre par les économistes de la Commission européenne. C'était une réunion au sommaire. C'était le français.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris.
Le français cinglé, non, le français. Non, parce qu'on ne va pas laisser développer mon exemple sans rien. On est passé rapidement, le temps et l'argent. Bref, je termine la sélection. Alors, comment on distingue les choses. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, alors, conceptuellement, c'est, tout ça a été très établi. Après beaucoup de discussions et tout, l'INSEE a finalement acheté tous ces concepts. Et vous allez maintenant sur le site de l'INSEE et vous allez avoir pour toutes les communes de France, et ils ont rétropolé, de 1975 à 2014, vous avez par commune le nombre d'emplois du secteur productif, c'est-à-dire des activités vendant des biens et services produits localement, vendus à l'extérieur, donc ceux qui sont pris dans la compétition, la concurrence mondiale. Les activités publiques, dans le service public, payées par des mécanismes budgétaires, nationaux ou locaux, et puis ce qu'on appelle l'emploi présentiel, qui sont des emplois justement qui sont liés à la population qui y habite. Et donc ça c'est disponible, c'est admis. Alors, il y a des gens, et on m'a fait dire, et je dois avouer que j'ai peut-être parfois été un peu complaisant parce que j'allais vite, peut-être qu'aujourd'hui vous l'avez senti, mais c'est pas mon intention. Qu'il y a derrière tout ça une idée qu'il y a des territoires qui en battent, qui passent comme des chiens, et d'autres qui, derrière, profitent, et qui récupèrent des revenus, etc. C'est plus compliqué. J'ai pas le temps de développer parce que là, ça prendra encore plus de temps. On a remis un gros rapport à la DATAR, on a publié un bouquin avec ma collègue Magali Talandier il y a 2-3 ans, où on montre que c'est pas des fonctions en concurrence, c'est des fonctions complémentaires. Totalement. Alors c'est vrai qu'il faut bien qu'on crée de la richesse pour pouvoir la redistribuer, hein, mais en même temps, les fonctions de résidence sont des fonctions aussi indispensables que les fonctions de production. Enfin, ça ne se discute même pas. Et donc, c'est un peu la discussion, qu'est-ce qui est le plus important, le foie ou le poumon. On a du mal à trancher, au sens propre. C'est la même chose. Et ce qu'on a montré aussi dans ce rapport, c'est que les territoires qui sont très attractifs du point de vue résidentiel, et ça on l'a montré de façon économétrique d'une façon assez marrante, c'est que vous prenez les fameuses métropoles qui marchent vachement bien en France aujourd'hui, on l'a fait sur les 100 premières aires urbaines, vous avez un modèle qui est incroyable, qui est que le développement de l'activité dans les métropoles, et puis aussi les développements des activités métropolitaines, etc., elle est totalement corrélée à la qualité environnementale, la qualité résidentielle de l'interland de l'aire urbaine considérée. Quand vous avez une aire urbaine qui a autour d'elle des plages à une demi-heure, etc., qu'elle s'appelle Nantes ou qu'elle s'appelle Rennes, elle marche du feu de Dieu. Si elle s'appelle Lille, elle ne marche pas du tout. Alors, ça, on le sait. Nos enfants le savent. Ils savent que, on le voit bien aujourd'hui, ils préfèrent aller habiter à Nantes qu'à Lille. Et en fait, sur les 100 terres urbaines, les 100 terres urbaines, on constate que sur toutes, il y a cette relation. Il y a une corrélation, il y a un modèle. Le succès de la métropole dépend de la qualité. Alors, parce que les indicateurs qu'on a utilisés qui sont un peu lourds. C'est même pas pour l'Île-de-France, hein. L'Île-de-France qui est pas bon, qui est pas bonne. Et donc, le résultat, la conclusion qu'on en a tirée, c'est presque l'inverse de ce qu'on pourrait penser au départ, c'est que si quelqu'un doit être redevable de l'autre, c'est pas les territoires résidentiels qui sont redevables de l'argent que produisent les territoires riches, les territoires productifs, pardon. C'est le contraire. Les territoires productifs marchent parce qu'ils ont les territoires résidentiels. C'est comme... moi, je l'ai considéré un peu engueulé avec des gens de Valenciennes, Toyota, par exemple. Les mecs, Toyota, ils diront, c'est affreux parce qu'en fait... On a Toyota qui marche bien, mais en fait, les cadres, ils habitent tous à Lille. Personne ne veut habiter à Valenciennes. Et nous, on disait, mais attendez, j'ai eu la même chose dans le Gers avec les...
Pareil dans le bassin minier.
Ah oui, s'il n'y avait pas Lille à côté, s'il n'y avait pas une qualité résidentielle à Lille, et puis les offres de lycée, de machin, etc., Toyota serait pas venu. Toyota serait pas venu. Donc en fait, c'est des caractéristiques résidentielles, pour la qualité de vie des gens, naturelle ou construite, hein, le lycée, le machin, etc., la polyculture, etc., c'est fondamental dans le succès des métropoles. Alors ça retombe sur Florida et sur les auteurs.
Oui, je ne sais pas si tu connais cette étude de Glaser. Glaser, c'est un peu d'Asie américain, qui mouline beaucoup moins bien, mais il mouline énormément de stades dans tous les sens. Et il avait fait il y a une vingtaine d'années une étude où ils avaient mis, alors vous savez, c'est le genre d'étude où on met 25 variables, hein, peut-être même plus, 30, et puis on essaie de les classer pour avoir les variables qui sont les plus explicatives. Et donc la variable qui était sortie en numéro 1 dans son analyse, sur le taux de croissance des aires métropolitaines américaines, c'était la température du mois de janvier. C'était l'indicateur température moyenne du mois de janvier.
Ça paraît des conneries, il y a des
messages. C'est lié à un phénomène que, général, qui est que de plus en plus, c'est la mobilité des gens qui est cruciale dans la géographie économique, plus que la mobilité des capitaux. Ça, c'est un point que je n'ai pas développé, mais qu'on pourrait développer.
C'est inversé.
On voit très bien, vous voyez, il y a des... Le modèle traditionnel qu'on a encore en tête, c'est que la géographie économique, ça fait par la mobilité du capital. En fait, aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est la mobilité des gens. C'est-à-dire les entreprises vont aller là où les gens ont envie d'aller et pas l'inverse. Bon, voilà. Laurent, merci beaucoup. Tu finis la réunion.